Bonjour à tous, Didier sur EDFM pour un nouveau rendez-vous compte. Un rendez-vous compte où il va être question de bad boy, de méchant garçon, de rapporteur doré, mais aussi de sombre romance. Rendez-vous compte. Bonjour Hélène.
Bonjour Didier.
Alors Hélène Souhaud, notre psy attitrée, qui d'habitude présente une chronique qui s'appelle « L'œil du psy », normalement de quelques minutes, mais là, le sujet qu'elle va nous présenter aujourd'hui a tellement débordé qu'on est obligé, mais avec plaisir, de lui consacrer une émission entière. Et puis, on recevra aussi Audrey. Bonjour Audrey.
Bonjour Didier.
Voilà, donc on retrouvera un petit peu pour éclaircir certains propos de Hélène. Alors Hélène, quel est ce sujet qui t'a tellement passionné qu'on va y passer une demi-heure ?
Le bad boy, tout simplement. Le méchant garçon qui plaît tant aux filles. Alors, ce qui m'a donné cette idée, c'est une pièce de théâtre que j'ai vue récemment, Un tramway nommé Désir. Donc, ce n'est pas une pièce toute récente. Elle a été mise en scène par Pauli Sussini, je l'ai vue à Taverny, avec Christina Reali. Elle passe également au théâtre d'Anguin, au Casino. Dans la foulée, j'ai revu le film d'Elia Kazan avec Marlon Brando et Vivienne Leigh. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette pièce de Tennessee Williams, l'intrigue se passe peu après la Seconde Guerre mondiale, dans un quartier ouvrier de la Nouvelle-Orléans. Stella reçoit la visite de sa sœur Blanche. Le compagnon de Stella, Stanley, un ouvrier d'origine polonaise, ne voit pas sa belle-sœur arriver d'un très bon œil, d'autant qu'il découvre que la plantation et la maison que Blanche gérait avec ses parents est perdue, ensevelie sous les dettes. Blanche enseignait la littérature, elle adore la poésie, les vêtements sophistiqués et elle a les nerfs très fragiles. Les trois personnages cohabitent dans un petit appartement. Les tensions s'exacerbent peu à peu, jusqu'à leur paroxysme, au moment où Stella part accoucher et où Stanley se retrouve seul avec Blanche. Une scène violente a lieu entre deux. Dans l'épilogue, Blanche, devenue complètement folle, est emmenée en hôpital psychiatrique. À mes yeux, Blanche est une coquette insupportable, déconnectée du réel, et Stanley est un beau gosse, très viril, un peu violent à l'occasion, mais amoureux de sa femme, frustré de voir sa vie sexuelle freinée par la promiscuité avec Blanche et peut-être aussi par la grossesse. L'élément clé de la pièce, suggéré mais pas montré sur scène, m'a échappé. Stanley viole sa belle-sœur Blanche en l'absence de Stella. On m'a expliqué après. J'ai revu le film, j'ai fait une pause à l'instant critique et effectivement, le viol est bien suggéré, il n'y a pas de doute. Mon aveuglement m'a inquiété. Stanley est un peu porté sur la boisson et la bagarre, certes, un peu vulgaire, il claque les fesses de Stella en public, d'accord, mais c'est un beau mec, franc du collier, plutôt sympathique, bon camarade. Une partie de moi refuse de le voir comme violeur. Quand j'ai pris conscience de mon déni, j'ai été outré contre moi-même, ça m'a poussé à essayer de comprendre. D'où mon intérêt aujourd'hui pour le bad boy.
Bon alors d'accord, Stanley, c'est le séduisant mauvais garçon, il t'a déstabilisé. Bon, je sais bien que les filles craquent toujours pour les voyous, en tout cas c'est ce que tu affirmes Hélène. Je pense que tu n'as pas échappé à la règle, mais ça tu me le diras hors micro. Voilà, mais là n'est pas la question, quand le mythe du bad boy est-il apparu, Hélène ?
Alors le premier bad boy dans l'histoire de la littérature serait né lui aussi au théâtre, il s'appelle Mandred, dans la pièce éponyme de Lord Byron en 1817. Mandred installe le modèle du héros sombre, tourmenté, égoïste mais séduisant, depuis qu'il a tué par son étreinte Astarté la femme qu'il a aimée.
Voilà, l'homme fatal cher au romantisme. Bon, mais pourquoi ça marche aussi bien le bad boy ?
Il y a eu longtemps une répartition genrée des rôles. L'homme tourné vers l'extérieur, vers la technique, il agit, il conquiert. La femme est tournée vers le foyer, elle prend soin, elle communique. Il en reste des traces indéniables quand on observe les choix d'orientation des garçons très majoritaires dans les métiers techniques et des filles très majoritaires dans les métiers du soin. Dans cette logique, le bad boy est plus fort et plus malin que les autres, sauf s'il finit en prison, mais même ça, ça peut ajouter à son charme. Mona Chollet, dans son livre « Réinventer l'amour », explique que les repris de justice célèbres, même assassins et violeurs, reçoivent un important courrier de femmes amoureuses d'eux et des demandes en mariage en cascade. Ça ne marche pas du tout de la même manière quand ce sont les femmes qui sont emprisonnées.
Quelqu'un frappe à ma porte, je sens mon pouls qui s'accélère, le temps s'arrête. J'ouvre la porte, c'était l'amour, oui c'était lui que j'attendais. Lui le feu qui me consume, ce même homme qui m'allume, qui me rend chienne, qui me rend bête et qui m'éteint quand ça lui chante. J'suis tombée amoureuse d'un bad boy, me posez pas de questions. le soleil rentre dans son nid. Le ciel a changé de visage. Tes mains se chargent de colère. Où est l'homme que j'attendais? Hier encore on faisait l'amour. Aujourd'hui je suis poussière. Même pas une larme pour ta reine en guise de pardon. Je suis tombée amoureuse d'un bad boy.
Dans le rôle de soin que pensent avoir les femmes, se glisse souvent le fantasme du sauveur, ou plutôt de la sauveuse. L'homme fort fascine, même s'il fait du mal. L'idée que l'amour, le charme, la séduction puissent dompter l'animal féroce qu'est l'homme est apparemment un moteur puissant pour beaucoup de femmes. Paradoxalement, le fantasme de faire émerger la douceur et la gentillesse chez la brute est plus puissant que l'idée de choisir directement un homme doux et gentil, un canard, l'antithèse du bad boy dans le langage d'aujourd'hui.
Voilà, Hélène, tu as cité le Mandrake de Lord Byron comme première incarnation du bad boy, et je pense que tu as d'autres exemples.
Oui, le livre de Chloé Thibault, Désirer la violence, aux éditions Les Insolentes, est une véritable mine d'exemples. Elle y explique que l'homme puissant, dominant, voire un peu violent, est un motif omniprésent sur nos écrans depuis le début du cinéma. On peut citer par exemple James Bond, Indiana Jones, Jean dans Un gars, une fille. La liste est absolument interminable. Je pense aussi à Une partie de campagne, la nouvelle de Maupassant adaptée au cinéma par Jean Renoir. Cette œuvre était mise en avant par les programmes de l'éducation nationale car représentative du patrimoine culturel français. Je l'ai étudiée avec des classes de 4e quand j'enseignais. Je vous raconte les grandes lignes. Deux canotiers, jeunes, beaux, sportifs, proposent une promenade en barque sur la Seine, dans le Val d'Oise, à une mère et sa fille d'une famille parisienne venue passer un dimanche à la campagne. Les canotiers ont pris soin de fournir une canne à pêche au père resté à quai pour l'occuper pendant la promenade. Les deux compères connaissent des lieux romantiques à visiter dans les fourrés. La mère rit à gorge déployée quelque part au loin, tandis que sa fille hésite quelques instants avant de céder aux avances de son cavalier. Le baiser est d'abord forcé, puis la jeune fille s'abandonne. C'est un motif reproduit sur grand écran des centaines de fois. La résistance, le non de la femme est de pure forme. Elle ne dure qu'un instant et très vite. Le désir prend le dessus et la femme prend du plaisir. La réaction de mes élèves de 4e en 2020, donc après MeToo, était intéressante. « Mais madame, c'est un viol, elle avait dit non !» L'histoire du cinéma reflète évidemment l'histoire de la civilisation. Le patriarcat, l'inégalité devant la loi, le fait que les scénaristes et les réalisateurs soient presque exclusivement masculins autrefois explique cet état de fait pour des films anciens comme Une partie de campagne sortie en 1946.
Ouais, 1946, ça date quand même. Si tu t'appuies sur un film du milieu du XXe siècle, on est quand même loin de la culture actuelle.
C'est vrai que ça fait un moment que l'égalité des sexes devant la loi est acquise. On constate aussi le nombre croissant de femmes qui, à l'écriture et à la réalisation de films. Aujourd'hui, elles sont 23% comme réalisatrices, mais elles restent très minoritaires et encore plus dans les grosses productions. Cependant, ça bouge dans les mœurs, dans les têtes, ça bouge tout doucement. Justine Triet, lauréate de la Palme d'Or à Cannes pour Anatomie d'une chute, fait partie de ces cinéastes qui renversent les codes et inventent un nouveau langage. La caméra s'est juste là apparentée à un œil masculin, le male gaze. Justine Triet installe le female gaze. Dans Sibylle, avec Virginie Efira, elle filme la sexualité du point de vue de la femme. C'est révolutionnaire.
Oui, parce que quand même, les relations hommes-femmes ont beaucoup changé ces 10 dernières années. Depuis qu'elles se sont insurgées, bien sûr, contre les abus dont elles ont été et sont toujours victimes.
Je reviens sur la vague MeToo ou Balance ton porc dans la version française. J'y ai fait allusion en parlant de mes élèves de 4e d'une génération post-MeToo. C'est un phénomène mondial qui modifie profondément les rapports hommes-femmes dans le monde occidental depuis 2017 et l'affaire Weinstein, ce producteur américain hyper puissant qui avait l'habitude d'abuser des actrices grâce à son rôle clé dans le financement des films. Il est parmi les premiers prédateurs sexuels à être trompé avec Dominique Strauss-Kahn et beaucoup, beaucoup d'autres ont suivi. Différents secteurs de la société ont fait leur MeToo, comme la télévision avec PPDA, le cinéma avec Depardieu et bien d'autres pans de la société avec des hommes moins connus. Il y a eu aussi le MeToo pédophilie avec le consentement de Vanessa Springora et le MeToo inceste porté par le livre Triste Tigre de Neige Sino. Le MeToo garçon, car les garçons aussi peuvent être victimes, je pense en particulier au scandale révélé au sein de l'Église. La parole se libère de façon spectaculaire. Le consentement fait son entrée sur le devant de la scène Plus question de mettre sous le tapis ou de banaliser des comportements sexistes ou abusifs sous couvert d'humour. Bref, on a fait un pas de géant vers des relations amoureuses plus égalitaires, moins violentes. C'est formidable. Et il y a aussi un mouvement inverse qui se dessine, les mouvances masculinistes qui promeuvent la force physique, le virilisme et à divers degrés la domination des hommes sur les femmes.
Bon, on est d'accord Hélène, hein, ça avance dans la réalité. L'ère où les prédateurs se servaient en toute impunité est terminée, mais finalement, le fantasme du bad boy demeure dans les têtes et les cœurs de ces demoiselles et de ces femmes.
En effet, depuis le confinement, c'est un phénomène tout récent. On constate la montée en puissance d'un sous-genre littéraire étonnant au milieu de cette aspiration à mettre fin aux violences sexuelles, la dark romance. La romance, c'est ce que les gens de ma génération appellent les romans harlequins ou à l'eau de rose, avec des scénarios très prévisibles où tout doit respecter une série de scènes et de passages obligés. La série de livres le plus emblématique de la dark romance, c'est 50 nuances degrés, à la différence près que le livre a été écrit par une femme d'âge mûr, alors que la dark romance est généralement écrite par et pour de très jeunes femmes de 18 à 25 ans environ.
Une pause musicale avec un extrait de la bande originale du film 50 nuances degrés, musique. I put a spell on you.
I put a spell on you. Because you're mine. You better stop the things you do. I tell you I ain't lying.
L'ouvrage le plus connu, composé lui aussi de plusieurs tomes, s'appelle Captive de Sarah Rivens. Comme l'expression dark romance l'indique, l'intrigue amoureuse est marquée par la noirceur, l'inégalité, la violence, la domination. Il est question d'enlèvement, de viol, de mafia, de prostitution. Le personnage principal masculin, un homme puissant et torturé, est aussi beau, riche et séduisant. On retrouve notre fameux bad boy. Le personnage féminin, malmené, devine un cœur doux qui bat sous la carapace du monstre et se donne pour mission de sauver son bourreau de lui-même et de le faire accéder au véritable amour. Ça finit en effet par arriver à l'issue d'une quantité extraordinaire d'obstacles, de violences et d'humiliations pour la pauvre héroïne. Ce genre se vend tellement bien qu'il se subdivise en une myriade de sous-genres que des influenceuses lectures analysent avec passion dans leurs podcasts.
Eh oui, en pleine vague MeToo, de jeunes femmes organisent elles-mêmes une littérature régressive en ce qui concerne leurs relations avec les hommes. Alors pour nous éclairer sur ce sujet, on va donner la parole à Audrey. Audrey, tu es étudiante ?
Oui.
Mais aussi grande lectrice ?
Aussi.
Donc voilà, on te cède la parole.
Alors, concernant ce sujet, c'est plus complexe que ça. Dans la dark romance, un genre écrit par les femmes, tout n'est pas à jeter. Comme le dit Hélène à propos de la caméra de Justine Triet, quand les femmes écrivent, elles n'écrivent pas la même chose que les hommes. Cela est notamment visible dans la représentation de la sexualité, qui est revisitée sous l'angle du plaisir féminin. Le lien entre pénétration et orgasme est questionné. On lit des scènes relatant des rapports sexuels où la pénétration n'intervient pas, et le clitoris est placé au centre du plaisir féminin. je trouve que c'est un aspect très positif qui manquait à la littérature jusque-là. Là où le bas blesse, c'est plus dans la représentation des dynamiques amoureuses. Dans la dark romance, le personnage masculin est présenté comme un être possessif, sans pitié avec le monde extérieur, avant de s'adoucir avec l'héroïne uniquement. Certains livres présentent des schémas de relations d'emprise sans qu'elles soient remises en question. C'est le cas dans le livre « Not a Saint » de Daniel Laurie, une dark romance où Elena, la fille du chef de la Casa Nostra, rencontre Nicolas Rousseau à la tête d'un autre réseau mafieux, initialement destiné à épouser sa sœur dans un mariage arrangé. Ils vont finir par développer une relation charnelle puis amoureuse. Hormis les remarques sexistes qu'il lui lance au visage au début de leur relation, je cite par exemple « Vous avez l'air d'une traînée dans cette robe, Elena », il se montre possessif et contrôlant. Au début du livre, la jeune héroïne pratique la danse, seul hobby qui lui permet de s'extraire de sa prison dorée familiale. Mais Nicolas, le protagoniste masculin, a assisté à une représentation où Elena embrasse sur scène son co-danseur. Nicolas fait alors une scène de jalousie. Les références à la passion d'Elena pour la danse s'espacent jusqu'à disparaître dans la dernière partie du livre. Elle passe alors la majorité de ses journées enfermée entre les quatre murs de la maison de Nicolas Rousseau. Sans ressources financières, isolée de sa famille, elle n'a même plus l'échappatoire de la danse pour quelques heures par jour. Cette situation de vulnérabilité caractéristique de l'emprise n'est à aucun moment questionnée dans le livre. Certains romans présentent des modèles dangereux pour les jeunes filles, c'est vrai. Mais ce schéma n'est pas toujours présent dans les dark romances, où les femmes peuvent aussi gagner en puissance. Cela passe notamment par le fait d'apprendre à se défendre physiquement ou même d'apprendre à manier les armes à feu. La montée en puissance de la femme est même parfois encouragée par le fameux bad boy, mais admiratif de son amoureuse, qui n'est plus sans défense. En cas de conflit direct au sein du couple phare, il n'est même pas rare de voir l'héroïne, initialement malmenée par son amoureux, riposter et rendre coup pour coup.
Nouvelle pause musicale pour écouter la chanson de Boris Vian, interprétée par Magali Noël. « Fais-moi mal, Johnny, fais-moi mal ». C'est une chanson, hein, simplement.
À mon approche, debout il était plus petit. Je me suis dit, c'est dans la poche, ce mignon-là, c'est pour mon lit. Il m'arrivait jusqu'à l'épaule, mais il était râpé comme tout. Il m'a suivi jusqu'à ma piole, et j'ai crié, vas-y mon loup, fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel. Zoom, fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Il va lui faire mal. Il va lui faire mal, il va lui faire mal, il va lui faire mal.
Il n'avait plus que ses chaussettes, des belles jaunes avec des raies bleues. Il m'a regardé d'un œil bête, il comprenait rien, le malheureux. Et il m'a dit l'air désolé, je ne ferai pas de mal à une mouche. Il m'énervait, je l'ai giflé et j'ai grincé d'un air farouche. Me fais-moi mal, Johnny, 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 je suis pas une mouche. Fais-moi mal, Johnny, 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 moi j'aime l'amour qui fait boum.
Vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal, vas-y, fais-lui mal.
Voyant qu'il ne s'excitait guère, je l'ai insulté sauvagement. J'y ai donné tous les noms de la terre et encore d'autres bien moins courants. Ça l'a réveillé aussi sec et il m'a dit, arrête ton char, tu me prends vraiment pour un pauvre mec. Je vais t'en refiler de la série noire. Oh, tu me fais mal, Johnny, 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 pas avec les pieds. Si, tu me fais mal, Johnny, 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 j'aime pas l'amour qui fait bim.
Il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal, il lui a fait mal.
Il a remis sa petite chemise, son petit complet, ses petits souliers. Il est descendu l'escalier en me laissant une épaule démise. Pour des voyous de cette espèce, c'est bien la peine de faire des frais. Maintenant j'ai des bleus plein les fesses et plus jamais je ne dirai fais-moi mal, Johnny, 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 envoie-moi au ciel.
Voilà. Ainsi, si la figure du mauvais garçon reste centrale, les femmes ne sont plus nécessairement représentées comme passives et peuvent devenir actrices de leur vie au fil de l'histoire.
Exactement. Surtout que dans la dark romance, la majorité des histoires repose sur le schéma narratif, appelé trope, par la jeune génération, d'ennemis to lover, que l'on peut traduire par d'ennemis à amoureux. Cet antagonisme a pour source les mauvais comportements du bad boy que l'héroïne dénonce en insistant sur le visage sombre du protagoniste masculin et en refusant d'être son souffre-douleur et n'hésitant pas à riposter. Cette détestation mutuelle crée une tension qui est très appréciée par les lectrices et qui les tient en haleine. Au fur et à mesure que les liens se tissent entre les personnages, la haine évolue vers de l'attirance physique, puis de l'amour. Le regard de l'héroïne sur cet homme va alors évoluer. Elle va découvrir ses failles, son passé. Lui-même va progressivement s'adoucir avec elle. Sa possessivité et son contrôle vont alors devenir son côté protecteur. Et je crois que c'est dans la figure du protecteur que se joue le ressort principal du bad boy. C'est pourquoi aujourd'hui, plus de 5 ans après MeToo, tant de jeunes femmes continuent à lire des histoires avec de telles figures masculines. Les jeunes femmes, y compris les adolescentes, ont conscience que, du fait de leur genre, elles sont exposées au cours de leur vie à la violence sexiste, quelle que soit sa forme. Dans la new romance comme dans la dark romance, des figures d'agresseurs sexuels ou de violeurs sont souvent présents au sein même de l'entourage de l'héroïne et qui passent à l'acte ou tentent de le faire. C'est là qu'intervient le bad boy, qui joue la figure du protecteur, soit en stoppant l'agression, soit en agissant a posteriori, en vengeant l'héroïne, en allant jusqu'à parfois détruire la vie de l'agresseur ou directement même le tuer. Vous vous souvenez de Nicolas Rousseau, le mafieux possessif et contrôlant ? Eh bien, au cours du livre, il va commanditer le meurtre d'Oscar Pérez, un ami proche de la famille d'Elena, après avoir découvert qu'il la harcelait sexuellement. De même, quand cette même héroïne sera agressée sexuellement par le patron d'une station-service, Nicolas va directement incendier la station. Le bad boy apparaît alors comme un rempart face à la violence masculine, au point même de devenir un dispositif narratif, très publicité, avec des recommandations livresques autour du hashtag « Who did this to you ?» ou « Qui t'a fait ça en français ?» une phrase souvent prononcée par le bad boy quand il découvre une situation qui a fait souffrir l'héroïne et qui va déclencher la recherche de l'agresseur en vue de représailles. Mais la frontière est fine entre vengeance au nom de la victime, ce qui est plutôt louable, et vengeance pour s'en être pris à quelqu'un qu'il considère lui appartenir, ce qui relève de l'emprise perverse. Dans cette seconde configuration, l'agression sexuelle est perçue avant tout comme un crime d'honneur pour l'homme. Il y a même des cas où l'héroïne demande explicitement à l'homme de ne pas chercher à la venger et qu'il va quand même le faire contre sa volonté, non pas pour elle, mais pour lui-même. Ainsi, cette figure du bad boy protecteur reste très ambivalente. Il joue souvent le rôle du protecteur vis-à-vis d'un monde extérieur qui est représenté comme violent envers les femmes, ce que les jeunes femmes peuvent être amenées à vivre à leur manière avec les violences sexistes. Cependant, il est lui-même aussi un bourreau pour l'héroïne au début de l'histoire, avant d'évoluer vers un homme aimant et protecteur.
Ouais, on comprend mieux donc que le propre du bad boy, c'est de changer grâce à la femme qu'il aime.
Oui, les héroïnes tombent amoureuses du bad boy quand il a commencé à faire évoluer son comportement en se montrant plus respectueux avec elles, bien qu'il ne le soit pas plus avec le reste du monde. Imaginez qu'une femme puisse réussir à faire évoluer un homme et que l'amour qu'il finit par développer pour elle le rend plus doux et attentionné n'est pas très réaliste. Ce schéma s'apparente au syndrome du sauveur. Peut-on vraiment sauver ou changer quelqu'un malgré lui, au risque de soi-même y laisser des plumes ?
Ah, vaste question, j'en doute peut-être. Alors comment on peut se dépêtrer du bad boy ? On va tenter de répondre à la question après avoir écouté « Mon homme » de Miss Tinguette. Miss Tinguette, je vous le signale au passage, qui est née et qui est enterrée, devinez où, à Enghien-les-Bains.
Il me fout des coups, il me prend mes sous, je suis à bout, mais malgré tout, que voulez-vous ? Je l'ai tellement dans la peau, j'en suis marteau. Dès qu'il me touche, c'est fini, je suis à lui. Quand ses yeux sur moi se posent, ça me rend toute chose. Je l'ai tellement dans la peau.
Voilà, on retrouve Audrey et la dark romance.
Il faut garder en tête que les lectrices de la dark romance lisent pour la plupart aussi de la new romance, un genre littéraire où le respect et le consentement sont placés au centre, contrairement à la dark romance. C'est ce qu'affirme Magali Biget, maîtresse en conférence à l'université de Franche-Comté, qui étudie depuis plusieurs années le phénomène de la dark romance et de la new romance chez le lectorat féminin, autant jeune que plus mature. Cette diversité de lecture permet aussi, par le contraste, de marquer la dark romance comme un genre à part, où la figure du bad boy est poussée à son extrême, mais qui n'est ni la normalité, ni une réalité à souhaiter, comme l'affirment de nombreuses lectrices interrogées par la chercheuse. D'autant plus que, dans la new romance, il existe un nouvel archétype masculin mis en avant, celui d'un homme gentil et respectueux, qu'on désigne sous l'archétype Golden Retriever, et il n'en est pas moins présenté comme un très bon amoureux et amant.
Voilà, le Golden Retriever, c'est une race de chiens. dont la traduction française est le rapporteur doré, rapporteur parce que c'était un chien de chasse, et doré parce que sa robe est très joliment couleur brune, crème. Voilà, alors finalement, c'est le synonyme aussi du gentil garçon, connu pour sa fidélité et puis sa gentillesse envers des femmes. Alors, est-ce que les gentils garçons ont quand même leur charme auprès de nos jeunes filles et nos jeunes femmes ?
Je suis désolée, mais je vais être obligée de te décevoir, car sur les réseaux sociaux, livresque, le modèle du Golden Retriever est nettement moins publicité que celui du Bad Boy. Je glisse ici une petite mise au point sur le vocabulaire. J'ai employé le terme de Bad Boy pour prolonger le discours d'Hélène et dans le but de nous faire comprendre de toutes et tous. Mais ce terme est un peu passé de mode chez la jeune génération. Elle lui préfère le terme de Grumpy pour les personnages masculins toujours de mauvaise humeur et grincheux dans la New Romance, et le terme de Morally Gray pour les personnages masculins aux actes à la moralité questionnable. Cette préférence pour ces archétypes masculins peut s'expliquer par le fait que lire de la dark romance permet d'explorer, plus que dans la new romance, les zones grises de l'amour et du désir, et d'expérimenter une intensité émotionnelle, tout en restant dans un cadre purement fictionnel et qui s'arrête quand la lectrice décide de refermer le livre. Ainsi, en répondant à cette envie d'expérimentation par le biais sécurisant de la fiction, la figure du bad boy a encore de beaux jours devant elle.
Bon, si on récapitule, la société est de plus en plus égalitaire, mais le fantasme du mauvais garçon qui peut malmener les femmes reste puissant. Alors, je reviens vers toi, Hélène, psychothérapeute, avec une dernière question. La violence peut-elle donc revêtir un caractère érotique ? Rendez-vous compte. Est-ce que les jeunes lectrices sont en danger en jouant avec ce type de fantasme ?
En effet, ce fantasme peut-il avoir un impact réel sur leur vie ? Pour répondre à cette question, j'en pose une autre. Qu'est-ce que c'est un fantasme ? Un fantasme, c'est une image mentale excitante. Le fantasme est au cœur de la vie érotique. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Soyons donc tolérants envers nos fantasmes. Tant qu'ils restent à l'état de fantasme, ils ne tombent pas sous le coup de la loi. L'excitation a souvent des liens avec l'interdit. Les fantasmes sont souvent politiquement incorrects. Et tant que dans la réalité, on s'en tient à des relations entre adultes consentants, tout est possible. Cela dit, on peut tout de même s'interroger sur l'origine de nos fantasmes et sur leur devenir en fonction de la société dans laquelle on évolue. Le fantasme est à la fois éminemment personnel et terriblement social et partagé. Il est pétri d'images fabriquées par d'autres. Les images pornographiques sont souvent fabriquées par des hommes pour des hommes. Là aussi, certaines réalisatrices comme Erika Lust pointent leur nez. Les films mettent-ils en scène nos fantasmes ou nos fantasmes sont-ils façonnés par les films ? C'est l'œuf et la poule. Maya Mazorette, une journaliste spécialisée dans les chroniques sexo, écrit dans Le Monde, elle intervient sur France Inter et dans l'émission de Yann Barthès, Quotidien. Elle revient sur l'idée reçue que quand la sexualité devient ennuyeuse et routinière, il faut mettre du piment en se dirigeant vers des pratiques qui flirtent avec le sadomasochisme, ou SM pour les initiés. Elle est très claire sur sa position. Non, la douleur, la vraie, n'est ni désirable ni sexy. Dans son livre « Sortir du trou, lever la tête », elle appelle les générations d'aujourd'hui à réinventer les rapports hommes-femmes, à érotiser le consentement, à enchanter le corps masculin comme on l'a fait à travers les âges du corps féminin, à réinventer les fantasmes. Elle ne dit pas exactement comment. À chacun de nous de s'y mettre au boulot. Personnellement, je milite pour la revanche du canard, du golden retriever, du gentil garçon. Un peu de douceur dans ce monde du brut, moi c'est ça qui me fait fantasmer.
Ouais, ne te fatigue pas, Hélène Audrey nous a bien expliqué que le golden retriever, le gentil garçon, ne fait pas le poids devant l'attrait venimeux du bad boy malheureusement. Voilà, merci Audrey pour tes précieux apports sur la dark romance et la new romance, ces nouveaux genres littéraires qui font un carton en librairie. Merci Hélène pour ce nouveau clin d'œil du psy, Hélène Souhaud, thérapeute, psychanalyste. À bientôt pour une nouvelle chronique sur IDFM dans Rendez-vous compte, le mois prochain. Peut-être pour une chronique, tiens, sur les bad girls. En attendant, vous pouvez venir vous confier à Hélène dans son cabinet à Saint-Leu si jamais votre mec vire un peu trop bad boy. Rendez-vous compte. Vous retrouverez bien entendu l'émission en podcast, comme toutes les autres, sur le site de la radio. À la semaine prochaine, donc, même heure, même adresse, pour un nouveau rendez-vous.